Alors, Darlene, je vous la présente. Elle est née en Haïti, mais a grandi au Québec. Elle est titulaire de maîtrise en sociologie à l'Université de Montréal avec une spécialisation en immigration et en relations ethniques. Ses études ont été la base de sa recherche qu'elle a faite par la suite relativement aux femmes et aux préoccupations des femmes pour les minorités, parmi les minorités ethnoculturelles. Alors, Darlene a travaillé pendant 2 ans à l'INRS, qui est l'Institut national de recherche scientifique, à titre de directrice et coordonnatrice d'un projet de recherche sur les droits des travailleurs et travailleuses agricoles migrants saisonniers. Et maintenant, elle est coordonnatrice à Action Travail des femmes. Elle travaille depuis près de 10 ans sur la question de la discrimination systémique, fait la promotion des droits des femmes à l'égalité au travail. Ses réalisations incluent la récente victoire qu'Action Travail des femmes a eue au Québec avec 7 femmes qui ont porté plainte contre la compagnie Gaz Métropolitain relativement à des pratiques d'embauche discriminatoires sur le plan systémique. C'est une victoire que nous partageons avec fierté avec Action Travail des femmes, les travailleuses qui ont porté plaintes et toutes les militantes qui ont travaillé d'arrache-pied dans ce dossier. C'est un précédent dont nous sommes fiers. Une promotrice déterminée des droits à l'égalité, Darlene siège au conseil de plusieurs organismes et comités de défense des droits des femmes au Québec. Darlene, je cède la parole.
Bonjour. Quel plaisir d'être parmi vous. Et quel honneur! Mais d'entrée de jeu, je dirais que je me sens un peu petite après une telle prestation. Petite devant la salle aussi, devant la somme de connaissances et la somme de détermination qu'il y a ici dans cette salle. Annick m'a présenté et elle a oublié de dire un petit quelque chose que je tiens quand même à rappeler. La victoire d'Action Travail des femmes contre Gaz Métropolitain récemment, le 11 septembre dernier, devant le Tribunal des droits de la personne du Québec, nous devons la partager fièrement avec le Syndicat canadien de la fonction publique. Okay. Et pour entrer dans la matière, j'oserais même poser la question, je ne sais pas si je pourrais être debout ici aujourd'hui, à venir de vous parler de solidarité, communauté et syndicat, n'eût été de cette implication, de cette contribution-là, du Syndicat canadien de la fonction publique dans ce dossier-là. Donc, merci encore. Avant de commencer, je vais me permettre de situer un peu le contexte d'Action Travail des femmes. Action Travail des femmes, c'est quoi? Action Travail des femmes est un organisme qui existe quand même depuis 30 ans et dont la mission est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion des femmes en emploi. Donc, en ce sens-là, on veut finalement améliorer les conditions de travail et de vie des femmes. Par quels moyens? En les aidant à accéder à de bons emplois syndiqués. Et on sait pourquoi, je pense que vous en doutez bien. Et je vais essayer pendant ma courte présentation, de vous faire un peu un bref historique sur comment cette solidarité-là, syndicats et communautés, comment elle a été bénéfique dans le passé, comment aussi des fois il y a eu des irritants, parce qu'on apprend aussi de ces irritants-là, et comment peut-être explorer avec vous quelques pistes de réflexion pour rebâtir des fois certains ponts qui ont été, par le passé, un peu entrecoupés. On m'avait donné comme mandat aujourd'hui, je veux juste rappeler, les questions, c'était comment que le syndicat pourrait travailler en collaboration avec la communauté. Premier mandat. On m'avait invité aussi à me prononcer sur comment garder les demandes réalistes et courantes en ce qui a trait à l'accès à de bons emplois pour les femmes dans les secteurs publics. Enfin, je devais me prononcer aussi sur comment faire résonner ces demandes auprès des prochaines générations de syndicalistes. D'entre deux jeux, je dois vous dire que je suis une profane. Moi-même, je ne suis pas syndiquée, mais je connais très, très bien, par ailleurs, les effets de la syndicalisation, sur l'amélioration des conditions de vie des femmes et l'équité en emploi. Donc, un brin d'histoire. Au départ, ATF, qu'est-ce qu'elle faisait? Alors, pour qu'elle voulait aider les femmes à accéder à des emplois bien rémunérés, pendant plusieurs années, ATF a regroupé des femmes qui avaient été exclues des cours de formation menant à des emplois non traditionnels, par exemple en ébénisterie, la soudure, l'aéronautique. En 77, ATF invite plusieurs grands employeurs à une table ronde pour les convaincre d'embaucher des femmes comme col bleu. Le CN, Canadien International, qui est la cause fondatrice d'Action Travail des Femmes, se montre parmi les plus ouverts. 78, ATF encouragera les femmes à postuler sur ces postes d'entrée, tels que nettoyeurs de wagons, aides-signaleurs et chauffeurs de camions. Emploi qu'on doit souligner qui n'avait pas été occupé par les femmes depuis la Deuxième Guerre. Hein? Deuxième Guerre, les hommes sont au front. On fait appel aux femmes. Et à ce moment-là, on n'est jamais trop femme, hein, n'est-ce pas? On n'a jamais trop d'enfants. L'allaitement, c'est jamais un problème. Il n'y a pas de problème de garderie parce qu'on a besoin de renfort. Donc, voilà. Pour être embauchée à cette époque-là, les femmes devaient réussir un test de compréhension mécanique, une entrevue, un examen médical. Je vous passerai les détails. Les femmes sont embauchées, mais beaucoup sont éliminées, en raison notamment d'un test qui était jugé discriminatoire par la suite. ATF apprendra qu'il y avait un rajout d'un critère. On demandait dorénavant pour un poste de soudure des connaissances, pour un poste de wagonnier, dis-je, des connaissances en soudure. Je vous pose la question de demander des connaissances en soudure en 1978 pour des postes de wagonnier. Quel est l'effet, vous pensez, que ça avait? On venait dire bye-bye à un pan de la population. Et cette population-là, c'était entre autres et principalement des femmes. Pourtant, paradoxalement, la moitié des hommes embauchés entre 78 et 80 au CN n'avaient pas de connaissances en soudure. La compagnie se chargeait même de former ses employés une fois embauchés. Mon lien maintenant avec les syndicats, ce qu'on va apprendre, l'employeur, pas idéal, mais il était quand même ouvert à l'idée. Ce qu'on va apprendre, c'est qu'il s'agissait d'une demande du syndicat de demander la soudure. Donc, les femmes arrivent, tout d'un coup, on a un peu peur pour nos emplois, à tort, bien évidemment, on demande des critères supplémentaires. Donc, on peut voir ici, dans ce cas spécifique-là, le syndicat n'aura pas servi la cause. Mais, ça n'est pas resté là. Et on s'entend ici qu'on parle aussi d'un syndicat majoritairement d'hommes. Plus tard, le 14 juin 1979, on dépose une plainte à cette plainte-là, on dépose une plainte contre discrimination à l'embauche des femmes au CN, et comme remède, on demande un programme d'accès à l'égalité, ou, si on parle au niveau du fédéral, un programme d'équité en emploi. Septembre 1979, quelques mois plus tard, somme toute, ATF va recevoir une appui massive à sa plainte de l'ensemble de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Voilà déjà un grand pas de solidarité. Pendant ce temps-là, évidemment, on continue d'encourager les femmes à postuler au CN, tandis que le CN allègue la difficulté de trouver des femmes comme raison pour ne pas accepter un quota d'embauche. Donc, impossible d'arriver à une entente. Là aussi, le syndicat va s'allier avec ATF pour faire pression auprès de la Commission canadienne des droits de la personne afin qu'elle nomme un tribunal qui puisse imposer un vrai programme d'accès à l'égalité. Et ces pressions-là, ils sont appuyés par l'ensemble des syndicats au Québec, dont FTQ, CSN, La Totale, tout le monde y est. Tout le monde reconnaît d'emblée que si on veut que les femmes puissent améliorer leurs conditions de vie, nécessairement, ça passe par de bons emplois. Et en ce sens-là, la mise sur pied de programmes d'accès à l'égalité est un incontournable. Finalement, après 31 jours d'audience, le 23 août 1984, le Tribunal canadien des droits de la personne rend sa décision et donne raison à ATF et impose un programme d'accès à l'égalité au CN. Il s'agissait d'une première. Ma question maintenant, et je vous la pose, croyez-vous qu'il eût été possible d'avoir une telle décision du tribunal en 1984 en l'absence de cette solidarité-là qui unissait le mouvement syndical à ATF? Mais pensez-y donc deux secondes. Pense pas. L'expérience récente, entre autres, dans notre dossier contre Gaz Métropolitain, m'aura bien appris que non. C'est solidaire que nous arrivons à mener les luttes pour les femmes. Mais, comme tout rapport, c'est pas toujours rose. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des succès, il y a des échecs. Je retiens aussi de l'histoire, finalement, cette division qui marquera trop souvent le rapport de l'appareil syndical et les groupes de défense des droits. Et là, je me situe bien dans un contexte où je parle avec vous, je vous parle de syndicats qui sont des syndicats d'emploi qui sont composés majoritairement d'hommes. Parce que je sais que la différence peut être quand même grande quand on parle de milieu de travail où on essaie, de milieu de travail où les femmes sont en minorité. Donc, les premières années de ce deuxième millénaire statueront cette division. Je ne rentrerai pas là non plus dans les détails. Mais on peut parler des conséquences de ça, de cette division-là qu'à un moment donné, qu'il y a eu entre syndicats et mouvements de défense des droits. Il y a un réel et puissance à soutenir pour la part du mouvement des femmes et des organismes de défense des droits. Une réelle impuissance à soutenir réellement les femmes en milieu majoritairement masculin ou les femmes racisées aux prises avec des problèmes autres que ceux rencontrés par la majorité en place. Je m'explique. Quand vous êtes une femme, que vous travaillez, comme exemple, comme col bleu, à la ville de Montréal, vous êtes soudeuse, vous êtes plombière, et que votre délégué syndical, c'est un homme, vous êtes dans un milieu d'hommes, on peut comprendre que quand arrive des problèmes d'harcèlement, pour ne nommer que celui-là, par exemple, il y a comme des petits problèmes à ce moment-là qui fait que nous, quand les femmes viennent nous voir par la suite parce qu'elles ont des problèmes au travail, on ne peut pas. On est impuissante parce que, bon, évidemment, le syndicat, normalement, il est là pour défendre ces travailleuses-là. Mais ça arrive. Il y a aussi une ambivalence à continuer de diriger les femmes dans ces secteurs d'emploi, très bien rémunérés, avec de bonnes conditions de travail, alors que nous sommes impuissantes à les aider. Ça, c'est le dilemme qu'on vit comme organisme de défense des droits. Il y a ça. C'est notre réalité. Parallèlement et heureusement, je dirais, parce que le tableau n'est pas tout noir, hein, je tiens à le préciser, le mouvement syndical, pour ne pas dire les comités de conditions féminines, se font de plus en plus plus présentes que jamais au sein du mouvement des femmes. Et on peut regarder, à tout le moins au Québec, l'ensemble de revendications, de gains que le mouvement des femmes a eu. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu cette solidarité-là entre le syndicat et le mouvement des femmes. Puis je porte à votre attention ici, bon, la question de l'équité salariale, qu'il y a un beau travail de collaboration qui se fait, là, vraiment, de coalition, on pourrait même dire ça comme ça, entre syndicats et mouvements communautaires. Puis ça, c'est fondamental. Mais là aussi, c'est encore là les femmes, finalement, qui vont sur le terrain faire ce travail-là. Toute la question d'articulation travail-famille. On peut parler au Québec pour toutes les luttes qu'il y a eu pour l'augmentation du salaire minimum. Donc ça, c'est un travail qui a été fait vraiment. Et s'il y a eu des gains, si aujourd'hui on peut annoncer, entre autres, que le salaire minimum ici au Québec va être augmenté à 9 $, même si on est encore loin de ce qu'on aurait voulu, c'est le résultat de cette solidarité-là. Mais l'inverse, nous, par exemple, contribuer implicitement et directement à vos luttes, c'est peut-être moins évident. Et même si on peut en comprendre facilement les raisons, il demeure que le fait que le communautaire ne puisse pas s'investir au sein du mouvement syndical de la même façon que le mouvement syndical puisse le faire au sein du communautaire, laisse sans nul doute place à un sentiment parfois d'inégalité dans les rapports. Il y a donc certainement un rapport à reconstruire à certains égards, on précise bien, des solidarités à rebâtir, à trouver à rebâtir entre syndicats et communautés. Par contre, et il est bien de le préciser, depuis 2006, j'oserais dire, l'expérience d'ATF nous montre qu'avec l'implication du syndicat canadien de la fonction publique dans la cause contre gaz métropolitain, nous montre bien ces signes de pont qui sont en train de se rétablir. Il faut préciser ici que sans l'intervention du syndicat canadien de la SCFP dans le dossier qui nous préoccupe, certainement, on aurait pu maintenir les revendications d'ATF dans le dossier. Et quand on parle des revendications d'ATF, c'est pas ATF au sens personnel du terme, c'est ATF pour l'ensemble des femmes. Parce que ces revendications-là, c'était l'imposition d'un programme d'accès à l'égalité ou les femmes qui viendraient contrer la discrimination systémique que rencontrent les femmes quand elles veulent accéder à des postes, par exemple, de préposés à l'entretien du réseau à gaz métropolitain. C'est aussi cette implication-là qui nous a permis d'avoir gain de cause. Hein, c'est beau, ATF, là, de dire qu'on a eu gain de cause, mais n'eût été encore là de l'intervention de la SCFP, on n'aurait pas pu avoir gain de cause. Pour la simple et bonne raison que il y a des moyens qu'on n'avait pas. Il y a eu des difficultés en cours de procès parce que, bon, et je parlais de l'irritant tout à l'heure, parce que le syndicat de la partie adverse était pas du côté d'ATF. Et dans ce temps-là, on s'est retrouvé à un moment donné que, devant le fait accompli, qu'on était démis de notre, démis de notre procureur dans le dossier. Et qui dit un dossier comme celui-là, pas de procureur, il y en a plus de dossier. Donc, c'était, en 2006, c'était 10 années. 2006, on est en 2009, 10 années de travail qui risquaient d'être mis en pan. Pourquoi? Parce que on n'avait pas les moyens pour s'assurer la représentation à un moment donné devant le tribunal. Donc, c'est une bataille qui aurait été impossible de gagner, même au stade où on était rendu dans le dossier, sans l'intervention d'une juriste chevronnée dans le domaine. Et je souligne ici, puis je pense que c'est important, je vous parle tout à l'heure de l'application de la SCFP, puis on se demande, oui, mais de quelle façon ils sont impliqués. Maître Annick Desjardins, ici, présente, a été celle qui a pris le flambeau pour assumer la représentation d'Action Travail des femmes dans ce dossier-là. Et ce n'était pas une mince tâche. On ne défend pas des dossiers de nature systémique, de discrimination systémique, avec une juriste, par exemple, allouée par le service d'aide juridique. Non, ça prend des gens convaincus, ça prend des militantes, puis ça prend aussi des gens qui ont l'expertise. Et au moment où on se parle, le domaine du droit réserve encore peu de place à toute la question des droits de la personne. C'est pas un domaine que je pense qui rallie encore beaucoup, beaucoup d'adeptes. Tu me diras si je me trompe. Donc, en contrepartie, quand on parle d'implication encore là du syndicat, le syndicat de la CSN qui représentait les employés, évidemment voulait, et on comprend, protéger les intérêts de ces syndiqués dans ce cas-ci pour l'essentiel des hommes, mais sans trop se poser des questions sur les conséquences de ça. Et je suis arrivée à me faire réfléchir, j'ai dit pourquoi quand les femmes arrivent dans un milieu de travail, tout d'un coup, par hasard, tout d'un coup, le syndicat, il va être un petit peu plus près, des fois, de l'employeur. Donc, c'est parce qu'a été aussi le cas, comme je vous disais tout à l'heure, en 1981, dans la cause contre le CN. L'histoire se répétait donc. Je vais y aller succinctement maintenant sur la question « Comment garder nos demandes réalistes et courantes ?» De mon point de vue, évidemment, en l'absence d'une masse critique de femmes dans certains milieux de travail, on parle des femmes dans les métiers non traditionnels ici, il serait des plus souhaitables de décloisonner notre discours et nos actions afin d'interpeller également la gente masculine. Sensibiliser et outiller également les hommes sur le terrain qui travaillent avec les femmes non traditionnelles, notamment sur la question de l'accès à l'égalité en emploi, est pour moi un incontournable. Je pense qu'en 2009, on est rendu là. Je pense qu'on est rendu en 2009... pas d'arrêter de convaincre des convaincus que nous sommes ici dans la salle, mais il faut aussi traverser le pont, essayer de sensibiliser l'autre. Puis, par le fait même, éviter par la même occasion que ce soit encore et toujours la femme qui porte à elle seule le poids des droits de toutes les femmes dans son milieu de travail. Parce que ce que ça donne en réalité, le fait de juste de nous convaincre entre nous, quand les femmes arrivent dans un milieu de travail où elles sont minoritaires, puis je parle pour les femmes dans les métiers non traditionnels, mais c'est aussi vrai pour les femmes des groupes racisés qui arrivent dans un milieu où elles sont en minorité, eh bien, ça crée de l'ostratisation et de la marginalisation. Et quand il arrive des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On le banalise. Parce que l'autre ne comprend pas ce qu'on vit. Je me donnerai peut-être un petit exemple là-dessus. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez été déjà témoin de deux personnes qui pourraient se parler, un qui se plaint de racisme, par exemple, et la réaction de l'autre, la majorité, qu'on va dire, qui ne comprend pas. Et vraiment, des fois, il y a de l'incompréhension sur ce que nous, on peut prétendre comme étant un tort et la compréhension que l'autre a de ce tort-là. Et je ne pense pas que c'est en restant, chacun de notre bord, à faire la route chacun de notre bord, qu'on va finir par avoir gain de cause, autrement dit. Puis j'aurais comme image, vous imaginez l'odieux, vous êtes la victime et à la fois l'avocate, puisque vous êtes la seule à savoir finalement de quoi vous vous plaignez et ce dont vous revendiquez. Condamnée de facto à l'ostracisation. Donc, un travail que je crois qu'il gagnerait à être fait avec le concours des organismes de défense des droits, là encore. On a expérimenté la chose à ATF avec, entre autres, un cours de formation en carrosserie qu'on avait avec un groupe de femmes. Et ATF était allé donner de la formation, par exemple, à des professeurs sur, écoutez, là, le harcèlement sexuel, ça existe. Et quand on travaille avec des filles qui vont être appelées à travailler dans des milieux de travail non traditionnels, c'est important qu'on soit équipés et outillés pour aborder ça avec elles. Comment faire résonner ces demandes auprès des prochaines générations de syndicalistes? Je pense que la collaboration, on l'a démontré tout à l'heure, la solidarité, c'est un mos plus ultra, comme je pourrais dire. Les organismes de défense des droits étant d'abord, il ne faut pas l'oublier, un lieu d'éducation aux droits et d'éveil à l'implication militante. Ce que je m'amuse souvent à dire, nous, à ATF, on forme des futurs syndicalistes. On forme des futures militantes. Et en ce sens-là, je dirais qu'on prépare le terrain et à vous de le rattraper. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on puisse arrimer nos actions, arrimer nos interventions pour que finalement ça puisse donner les résultats escomptés. Juste pour donner un exemple, il y a plusieurs femmes qui sont passées par ATF, qui ont eu des emplois par ATF, qu'on a éduqué, qu'on s'est battu avec elles pour qu'elles puissent accéder à ces emplois-là. Et arriver dans leur milieu de travail, qu'est-ce qu'elles font? Elles deviennent des déléguées syndicales. Elles continuent de militer. Et je vous dis, ça fait une différence. Donc, aussi, finalement, on agit, de par nos revendications et notre mission, d'une certaine manière, comme agent de formation et de la relève militante syndicaliste. Impliquer et bâtir des solidarités avec les autres groupes de femmes discriminées et racisées, c'est fondamental. Hein? Le Québec, le Canada d'aujourd'hui, il est, comme j'aime à dire, tutti frutti. Il faut tenir compte de ça aussi dans les revendications qu'on porte et de la manière qu'on les porte. Effectivement. Pardon? Oui, oui. Il y a des différences et des spécificités, certes, mais il y a aussi des similitudes et des points de rencontre. Et moi, je suis d'avis qu'il faut travailler davantage avec les similitudes et les points de rencontre que sur les différences. Je pense que c'est beaucoup plus gagnant. Enfin, si on veut aller dans la théorie et les grandes réflexions, je pense qu'aujourd'hui, on pose les pas d'une nouvelle collaboration. Puis ça, je trouve ça intéressant. Mais peut-être qu'il y aurait lieu d'organiser à un moment donné un symposium qui pourrait regrouper des organismes de défense des droits et différents syndicats. Question de réfléchir et discuter ensemble de nos préoccupations communes en matière d'égalité des femmes en emploi. Créer un espace commun où militantes syndicales et militantes communautaires pourraient échanger, discuter et agir pour le mieux-être des femmes. Merci beaucoup.